s'intéresser à ces mondes en attendant que Charles Trosper nous rejoigne. On va s'intéresser à ces mondes effrayants, étranges, avec cet avenir que nous promettent nos auteurs. Alors, espérer pour certains qu'ils se trompent, parce que c'est vrai que là, on a autour de nous un florilège de mondes absolument terrifiants et sur lesquels on n'a peut-être pas forcément vraiment envie de se retrouver. Je vais commencer avec Jean-Michel Truand. Pour une raison toute simple, c'est que vient de ressortir en poche Reproduction interdite, hein, qui est un roman, pardonnez-moi de le préciser, mais qui a été publié à l'origine à la fin des années 80. Oh, non, je pense que c'est bon, le roman. Ça doit être bon, là. Ça marche. Donc, c'est votre premier roman qui est sorti en 88,
voilà, 8, ouais.
Et qui vient de ressortir chez Folio, une génération que vous avez un petit peu revisité.
J'ai fait trois modifications. J'ai rien changé à la trame, ni au personnage, ni rien. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on parlait de Minitel pour communiquer. Donc les endroits où on parlait de Minitel, c'est devenu des endroits où on parlait d'Internet. Et puis, à l'époque, c'était encore des francs, mais c'est devenu des euros. C'est ça, les deux principales modifications.
Parce qu'on est en 2037, hein, de mémoire,
oui, oui.
Comme ça. Et on est
encore la troisième modification, quand même. C'est-à-dire qu'il faut reculer quand même la date, parce que sinon, ça faisait
voilà, ça fait un
peu de temps. On voyait un peu l'existence, l'intérêt d'existence, je peux pas.
Mais dans l'ensemble, moi, j'ai frappé parce qu'il se trouve que j'avais la version d'origine de la sortie chez Olivier Roman, et donc je l'ai lu pour préparer cette table ronde. Et puis j'étais vraiment très, très impressionné par les intuitions que vous avez pu avoir et la manière de vous présenter ça. Alors, on peut expliquer peut-être en quoi consiste cette histoire de reproduction interdite. La question, c'est celle du clonage.
Oui. Peut-être pour situer le contexte, je venais de vendre mon entreprise d'intelligence artificielle et j'avais signé un contrat de non-concurrence avec Paribas et Framatome qui avaient racheté la boîte. Pendant 3 ans, je ne vais pas faire d'intelligence artificielle. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de... D'abord, j'étais assis sur un gros tas de noisettes. Et qu'est-ce que je vais faire de mes noisettes et de mon temps?
Ça aide pour s'occuper un peu quand même.
Il fallait que ça, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire. J'ai écrit un roman. J'ai hésité pour écrire un roman. J'avais dans l'idée d'écrire un roman sur l'intelligence artificielle, puisque c'était ma spécialité. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai préféré très vite m'intéresser au clonage. Le mot n'existait pas à l'époque. Ou plus exactement, il existait dans le sens de... un clone, c'était une colonie de cellules, toutes identiques. Faisait de la culture de cellules dans les laboratoires, mais pas au sens d'organisme complet cloné. Et donc mon éditeur m'a dit, quand j'en ai parlé, Olivier Orban, qui venait de démarrer sa boîte, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mais écoute, ce mot n'existe même pas dans le dictionnaire, trouve-moi un autre titre.
Et alors, c'est vrai qu'on est dans un univers qui est très proche du nôtre, finalement,
oui.
Dans lequel on se retrouve avec ces questions. Multiplicité d'humains se ressemblant tous les uns les autres, mais surtout avec une question fondamentale qui est quel est le statut d'un clone finalement, à la fois sur un plan législatif, sur un plan éthique et philosophique.
Oui, et plus profondément encore,
he was already doing the public intellectual circuit. Manfred Max is sort of like Cory Doctorow turned up to 11.
Oh, Manfred Max était ce qui était Cory Doctorow à 11 ans.
However, I gather his personal life is entirely different.
Et je pense que sa vie personnelle est complètement différente.
Alors, c'est le personnage principal d'Accelerando, votre dernier roman. En tout cas, le personnage principal, c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt le début d'une arborescence, on va dire.
Et je me demande si c'est vraiment quelque chose de pratique, de réalisable, voilà, dans cette merci.
What he does is he travels the world, finding people who are already in business, just introducing people to each other.
Ce qu'il fait, c'est qu'il voyage à travers le monde et il met en relation les gens de business entre eux. D'ajouter de la valeur en les faisant se rencontrer, en générant des connexions entre eux.
Il a une particularité, ce garçon, c'est qu'il ne se sépare jamais de ses lunettes.
Well,
his glasses contain his memory. Even back.
Ses lunettes contiennent sa mémoire.
The first time I met a man who was wearing a wearable computer.
La première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui portait un computer portable, un ordinateur portable, c'était en
1994. Yeah. He built it himself.
Il avait tous les éléments de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Google Glass.
Although it weighed about 2 kilograms,
et ça pesait à peu près 2 kilos.
It freaked out bartenders in London.
Et ça foutait la trouille au patron au bar dans Londres.
And for internet connectivity, it had a cellular phone.
Et pour la connexion internet, il avait un téléphone portable avec un modem.
Alors il se trouve que, quand on dit que c'est vraiment sa mémoire, c'est un point tel qu'à un moment, on lui vole ses lunettes, et il ne se souvient même plus comment il s'appelle.
Non seulement ça, mais la personne qui lui a piqué ses lunettes commence à être dominée par cet appareil.
C'est un outil très angoissant. Je ne sais pas si vous avez la même sensation en tant qu'auteur, mais.
This
sort of tool is a radical extension of tools that already exist, which are called life loggers, which are there to record everything that happens around you.
Cet objet est déjà quelque chose qu'on trouve maintenant, ce qu'on appelle life loggers, des enregistreurs de vie qui enregistrent tout ce qui se passe autour de vous.
And they are actually very useful for certain categories of people.
Et ils sont vraiment très utiles pour certaines catégories de gens.
For example, if you have a wearable device that remembers everything that happens around you.
Par exemple, si vous avez un appareil portable qui se rappelle de tout ce qui se passe autour de vous.
Imagine how useful that is to somebody in the early stages of dementia. Imagine you have a device that remembers and indexes everything around you, can remember who you've met, knows where you are. This would be very, very useful to siècle à la fin, même du 25e siècle, dans une ville qui s'appelle Atrocity, en deux mots, je précise. Enfin, quoi que l'espace est peut-être, peut-être en trop. Est-ce que vous pouvez nous présenter, faire un peu le guide pour nous emmener à Atrocity?
Alors, Atrocity est une ville extrêmement sympathique, très recommandable aux touristes, qui est composée principalement d'une sorte de grosse mairie où vit donc le régent qui est un peu le maître ultime de la cité et des alentours et qui vous propose une attraction extrêmement chaleureuse et divertissante, à savoir une arène où sont jugés les gens qui ont commis des crimes ou des délits. Et selon la gravité du crime, ils devront avoir plus ou moins de combats à faire dans cette arène. Et puis, ben, soit ils s'en sortent, ils sont libérés, soit ils n'avaient qu'à pas crimer.
Et soit ils s'en sortent après la durée de leur peine, voilà, puisqu'ils ont un certain nombre de combats.
C'est-à-dire que s'ils ont 25 combats à faire et qu'ils meurent au bout du 20e, ben, tant pis, puis s'ils font leurs 25 combats sans problème, ils sont libérés. C'est rare. Et donc autour de ce charmant centre-ville, il y a quelques maisons aisées, bourgeoises, et le reste, c'est des taudis, des bidonvilles, un cimetière qui est plus une sorte de fosse commune géante, plus ou moins à ciel ouvert, et avec une gare. C'est un des rares moyens de transport moderne de la cité.
Parce que la technologie a été bannie. Cet univers.
Oui, la technologie a été interdite parce qu'elle a créé des grandes guerres nucléaires et qui a quasiment détruit le monde et les plus grandes villes de notre époque. Du coup, la technologie a été entièrement interdite, sauf que le temps passant, les gens oublient pourquoi cette technologie a été interdite et recommencent à faire des fouilles pour trouver justement des choses qui nous paraissent totalement normal de voir des avions, des choses comme ça, mais qui sont presque inimaginables pour ces gens qui ont régressé technologiquement et donc qui réessayent de construire des véhicules, des ordinateurs peut-être plus tard, enfin, voilà, qui recherchent ce pouvoir par la technologie.
Alors il se trouve que quand on entre dans le roman, alors il y a une petite page d'introduction justement où on revient sur ces notions historiques, entre guillemets, on a l'impression, dites-moi si je me trompe, d'arriver une espèce de Rome futuriste, enfin futuriste, placé dans un futur en tout cas, une espèce de Rome antique. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a d'autres choses. À partir du moment où on croise par exemple ces personnages habillés en uniforme Hugo Boss datant des années 40, par exemple, on dit, ah, c'est peut-être pas forcément que la Rome antique qu'on croise dans ce régime-là, mais c'est quand même un monde au-delà des crimes qui ont pu être commis par les gladiateurs que l'on va croiser, qui parfois sont totalement dérisoires. On est quand même dans quelque chose d'assez assez terrifiant. Atrocity, la ville porte bien son nom.
Oui, Atro, c'est très sympa comme ville. Et le dirigeant, de toute façon, est une espèce de psychopathe incroyable, avide de pouvoir et complètement mégalomane. Et du coup, lui, il a piocher dans les cultures antiques ce qui lui plaisait, mais forcément, comme c'est quelqu'un pas très net dans sa tête, bah, il n'a pas forcément pris le meilleur de l'histoire mondiale.
Et puis on termine ce tour de table, ce premier tour de table avec Longchamp, avec un roman qui s'appelle Saletan. Là aussi, alors, c'est un petit peu différent, c'est pour ça que je vous ai laissé un peu garder pour la fin. Parce que au départ, on est dans notre monde et dans notre époque finalement. Avec toutefois des choses assez étonnantes qui se passent, on arrive à clignoter du temps.
On arrive à arrêter le temps, tout à fait.
Alors, justement, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, hein, cette manière de faire. On sait, puisque le premier personnage qu'on rencontre, c'est un champion de ski, qui est le plus grand champion de ski de son époque, sauf qu'on découvre qu'il, effectivement, il triche, parce que pendant qu'il est en course, il arrête le temps, et donc il arrive à gagner du temps sur les autres. Ça pourrait être finalement un point de départ classique, tranquille, sauf que la question finalement c'est d'où vient ce temps qu'il arrive à grappiller, je veux dire presque virtuellement finalement.
Alors, dévoiler un tout petit peu, en fait pas de riches, il n'y a pas de pauvres.
Il y a des frigidaires qui se remplissent.
Il y a des frigidaires qui se remplissent. C'est
ça, c'est
ça. Il y a par jour, juste de quoi se distraire, mais pas plus, il n'y a pas de guerre. Sauf que dans ce monde parfait, il n'y a plus de changement, puisque quand tout est parfait, on n'a pas besoin de changer. Et c'est vrai que nous, dans notre univers, on n'est pas parfait. Voilà, il y a des guerres, on est inquiet, mais on a toujours su s'adapter, on a toujours su changer, résoudre les problèmes. Et dans l'autre univers, non. Donc quand les gens de l'autre univers se voient voler leur temps, ils ne savent pas réagir, ils sont sclérosés dans leur perfection. Et ils se font tout simplement génocider, je pense que ça existe. Voilà, donc c'est une réflexion sur le temps, c'est sûr, mais c'est une réflexion aussi sur la capacité à s'adapter. C'est vrai qu'un univers peut être effrayant, non pas parce qu'il est horrible, mais tout simplement parce qu'il est trop parfait. Il y a une phrase que j'adore qui est chez Visconti, dans le départ, qui est « il faut changer pour que rien ne change ». Et dans notre univers, on est capable de ça, dans l'autre, on ne l'est pas.
Ah, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est finalement ce deuxième univers qu'on découvre. Il n'a rien pour être angoissant.
Non.
Et en fait, il l'est terriblement. C'est un ressenti qu'on a en tant que lecteur. C'est que finalement, voilà, il y a la première rencontre qu'on a avec les personnages, c'est un couple de femmes qui ont tout pour être dans un moment d'intimité et d'amour sincère. Et il n'y a pas de femme, quoi, finalement. Il manque quelque chose.
Il manque la passion qui certainement une source de destruction, mais source de vie.
Donc c'est vrai qu'on se retrouve, on va reparler évidemment au long de cette longue de cet univers, de ce deuxième univers, on parlera peut-être aussi d'une autre, hein, parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes et qui quelque part sont assez symptomatiques de ce que nous vivons au quotidien et peuvent être aussi considérées comme angoissantes, sachant que ce sont des tendances lourdes et qu'elles vont probablement se prolonger. Et voilà, on va évoquer peut-être ces univers qui sont finalement les plus proches de nous par rapport aux autres auteurs qui nous entourent. Jean-Michel Trung, c'est le clone dont nous parlions. Il se trouve qu'ils font donc partie d'une activité économique qui, on le sent, devient extrêmement lucrative, qui au départ, comme souvent, on a l'impression que ça part d'une bonne intention, ou en tout cas d'une idée, on est presque humaniste finalement, quelque part. Il y a un moment où ça dérape, comme souvent. Mais alors, on évoquait ce statut des clones, pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, la question c'est de savoir est-ce qu'on les range au niveau des animaux, voire même carrément à un étage inférieur, c'est de la chair à canon à bon marché finalement, et sans se poser de questions particulières.
Oui, en fait, ce projet ne peut voir le jour que dans une société totalement insensible aux valeurs de l'humanisme comme la nôtre. Et sur quoi, d'ailleurs, il verra le jour, tôt ou tard. Donc, pour être plus spécifique, ces clones sont en fait dépourvus. On a trouvé un moyen pour manipulation génétique de leur supprimer tout accès au langage, croit-on. Parce qu'en réalité, il va se révéler que le noyau humain, qui est au fond de... est toujours, le foyer humain est toujours actif, et une éruption va se produire. On croyait le volcan éteint, mais il n'était pas si éteint que ça. C'est pas si facile de déshumaniser, finalement. De fait, c'est un poncif pour pouvoir exploiter l'autre. Il faut commencer par le déshumaniser. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire, c'est que on a trouvé le moyen de décérébrer en réalité non pas les clones, mais ceux qui les utilisent au point qu'ils n'ont pas l'impression d'exploiter leurs semblables. Mais simplement d'utiliser des stocks de pièces détachées qu'ils peuvent exploiter comme on leur semble, soit pour des greffes, soit pour d'autres usages.
Ou pour simplement se rajeunir.
Oui, c'est ça, pour se rajeunir. D'ailleurs, régulièrement, naissance est dotée de son propre clone, par des parents qui sont soucieux de son avenir, hein, comme on prend une assurance vie, comme on met un petit pécule à la caisse d'épargne pour que l'enfant qui va naître soit prospère quand il sera adulte, à l'abri du besoin. Et bien là, quand l'enfant naît en même temps son clone. Et ce clone va être utilisé aux différentes étapes de la vie. D'abord, de manière la plus évidente, on va lui faire des prélèvements de sang réguliers à ce clone pour le réinjecter à son propriétaire, entre guillemets, de manière à le retraquer. Hein. C'est une manière de. On fait ce qu'on appelle de l'exsanguinotransfusion. Alors, on pompe le sang d'un côté pour le réinjecter de l'autre. C'est du sang frais, c'est du sang qui a été élevé dans des conditions d'environnement idéal, donc à l'abri de la pollution, etc. Des toxines, et donc c'est bon pour la santé. Donc on commence comme ça. Et puis, pour que la vie avance, viennent les premières maladies. Alors, je ne sais pas moi, une cataracte, j'ai besoin d'un cristallate, là, qu'on va prélever sur le clone. Et puis un jour, on a besoin d'un foie. Là, on va prélever le foie du clone, et du coup, on tue le clone. Mais on a inventé aussi, bien sûr, pour ne pas être obligé de jeter tous ces déchets, des techniques pour conserver les organes restants, non encore utilisés le plus longtemps possible au frais, en vue d'usage futur.
Justement, vous n'étiez pas si loin de la vérité de ce qui se passe aujourd'hui déjà.
Je ne sais pas si on n'est pas en train de sauter cette étape avec l'hybridation. C'est-à-dire qu'une autre manière de régler certains problèmes de santé serait de faire se rencontrer des gamètes humains, des cellules humaines, avec des cellules de provenance animale ou végétale qui auraient des propriétés, qui conféreraient à cet œuf des propriétés particulières, je ne sais pas, résistance à telle maladie, à tel virus, je ne sais pas moi, fluorescence. D'ailleurs, on a déjà fait, il y a déjà des animaux qu'on a rendus fluorescents en y injectant, en injectant dans l'œuf des bouts d'ADN qui portent cette capacité de photoluminescence. Et on pourrait imaginer de faire des êtres humains qui deviennent fluorescents la nuit. D'ailleurs, les vers aimeraient ça. Ça économise l'électricité.
La sécurité routière aussi. Charles Strauss, dans Accélérons, on a donc cette première génération qui sert un peu de notre époque, même si on est dans un futur proche. On est dans un monde ultra technologisé. Je ne sais pas si un néologisme derrière tout ça, mais enfin. La technologie est partout, tout le temps. Quelle est la place encore de l'humain lorsque débute votre roman?
Technology is humanity. It's something we've made. La technologie, c'est l'humanité, c'est quelque chose que nous avons fabriqué.
I'm much more worried about the space of humanity in business.
Il est beaucoup plus inquiet à propos de l'espace de vouer l'humanité dans le business.
Alors oui, effectivement, c'est ça aussi, Steph, finalement. Vous faites bien de préciser ça, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de vie personnelle. Ils sont... C'est du boulot, ils bossent sans arrêt. Chaque relation humaine est une
relation avec l'Amérique. L'Amérique. L'Amérique.
Mais on se dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas... l'envie de faire un peu autre chose de temps en temps, débrancher.
Unfortunately, a lot of people for whom work is the only thing. Culturally, there's this huge pressure in the English-speaking world to be all about work or all about doing something.
personnes cherchent tous à tirer profit de leur relation humaine.
Yes, but again, the book is all about capitalism. It's actually,
le livre de Paul est beaucoup du capitalisme.
When you get down to it, it's very much a book written during the dot-com boom, and it's all about the future of capitalism, and it's not a happy future.
Ouais, quand vous regardez les choses en face, ce livre a été écrit à l'époque du gros boom informatique, et c'est pas, c'était pas un livre qui allait décrire un futur qui chante.
Justement, on voit évoluer ce futur, parce que vous l'avez dit, c'est une dynastie qu'on découvre. Les générations suivantes, elles passent encore des échelons supplémentaires, à la fois sur un plan technologique et sur le plan humain.
Yes, each generation is so distant from its parents, but they're almost another species.
Chaque génération est tellement différente de ses parents, c'est pratiquement une autre espèce.
Mais c'est ça, il y a une forme d'évolution qui passe par la machine.
Only in the loosest sense of the word evolution. It's very much directed by individuals, but it's the effect technology has on them is to give them different perceptions of the universe around them.
L'effet que la technologie a sur eux, c'est de leur donner une différente vision de leur environnement.
Mais au point qu'on se demande à un moment, et d'ailleurs finalement c'est un peu vers là qu'on va, la machine prend finalement le dessus sur l'humain au fur et à mesure que le roman avance.
What is actually going on behind the scenes is this is the narrator, it is an artificial intelligence called Heineke.
Ce qui se passe, c'est que en fait, cette chose, c'est que le narrateur est une intelligence artificielle qui s'appelle pour moi, ça nous
dit
Heineke.
And Heineke uses cuddly toy robot cats to manipulate the humans.
Heineke utilise des jolis petits animaux de compagnie, robots, pour manipuler les humains.
Because, let's face it, who would you be friendlier towards or better inclined towards, your pet or cat or a vastly intelligent artificial intelligence?
Mais regardons la réalité en face. Avec qui voudriez-vous avoir des relations sympathiques, votre joli petit chat robot très amusant ou une intelligence artificielle surintelligente mais qui est une machine?
In the background of the novel, most of the way through the novel, 98% of the human species are exterminated. Off screen.
Alright. En fait, ce qui se passe derrière cette histoire, c'est que 98% de l'humanité est en fait éradiquée.
So, whenever I get an email from somebody, usually an American, saying, "Dude, this book changed my life, it's wonderful," I just ask, "What drugs are you on?"
À chaque fois que j'ai un correspondant américain qui m'envoie une email en disant « Ouais, mec, ton bouquin, il est super !» Je lui dis « Oh là là, la vache, t'as pris quelle drogue ?»
Je suis assez d'accord, oui. C'est un tour, mais on est dans le futur, et vous avez évoqué ces personnages, ils s'appellent les archéos dans le roman, parce qu'il y a, malgré tout, je vais peut-être pas dire une obsession, mais en tout cas, il y a un vrai questionnement sur le passé, et pas seulement sur le passé d'atrocité qui commence, si vous voulez, à la fin du 22e siècle, mais finalement, sur ce qui s'est passé bien avant, c'est-à-dire finalement, sur le monde qui est le nôtre. Quel est le regard des habitants d'atrocité, et en particulier de ces archéos, sur ce monde dont il reste quelques vestiges? Comment ils le considèrent?
Mais pour eux, c'est quelque chose qui a été, pendant plusieurs un siècle complètement tabou. Comme les technologies étaient bannies et qu'on ne voulait pas justement retomber dans la violence due aux armes hyper sophistiquées, aux armures hyper sophistiquées, etc., ça a été vraiment extrêmement tabou, donc on n'en a jamais parlé. Comme en plus les villes qui ont été détruites par les machines nucléaires sont encore irradiées, il y a des personnes irradiées qui vivent dedans, qui sont potentiellement dangereuses, et donc personne ne s'en est approché, donc c'est vraiment un grand mystère, c'est un peu l'équivalent des pyramides pour nous. Donc cette espèce de besoin de comprendre son passé, plus le fait de découvrir peu à peu que wow, ils avaient quand même un armement fantastique et des technologies incroyables, fait qu'il y a une espèce d'obsession effectivement des gens de pouvoir de découvrir plus de choses et de se les accaparer.
Et comme on est dans un régime totalitaire, chacun est vraiment bien à sa place, ce qui fait que quand un archéo fait une découverte, il regarde, il étudie, mais il touche à rien parce que c'est pas son boulot.
Voilà, l'archéo c'est vraiment la personne qui se... Qui prend sa mission, tu vas aller creuser à tel endroit, il y va, il ramasse tout ce qu'il peut, à la limite, il ne sait même pas ce qu'il ramasse. Il découvre des. Ah ben super, un rotor d'hélicoptère, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air technologique, on le prend, on le ramène. Et après, il y a tout ce qui est des espèces de scientifiques, mécanos, etc., qui vont décortiquer, étudier la chose et potentiellement voir comment s'en servir, à quoi ça pouvait servir à l'époque, comment l'adapter à notre époque, etc.
Alors, au milieu de tout ça, au milieu de cet univers, il y a évidemment une intrigue romanesque qui est un personnage qui est la star des gladiateurs, l'invincible. Il va se retrouver justement plongé dans ce monde extérieur. On va peut-être expliquer pourquoi, mais on lui demande d'aller suivre justement des archéos. Qu'est-ce qu'il découvre finalement? Il découvre au fur et à mesure de cette épopée ce monde qui pour lui était jusque-là réduit à l'arène finalement.
Oui, parce que sans combat, un combat par semaine, ça fait un moment qu'il est enfermé là-dedans. Et du coup, déjà il redécouvre l'extérieur. Et surtout, c'est quelqu'un qui a toujours eu une idée un peu préconçue. Comme certains gens peuvent avoir, genre les riches sont tous des méchants et les pauvres sont tous des héros. Donc il a toujours porté en horreur les cités comme à trop. Et donc les archéologues et tous ceux qui travaillent pour des cités comme ça, ils découvrent déjà que derrière des archéos qui donc seraient pour lui des vilains méchants, se cachent des gens qui ont une histoire, qui ont une humanité, qui ont... qui lui semble sympathique et finalement l'humain est partout.
C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient d'évoquer avec Charles et Michel. Il y a une découverte de l'humanité pour le personnage de Yann.
Oui.
Et une découverte, donc c'est facile. On peut dire ça, de tirer un petit peu profit finalement, c'est-à-dire qu'il va semer un peu la zizanie pendant le groupe dans lequel il se trouve.
Oui, voilà, plus ou moins volontairement, mais effectivement, lui il a quand même un but final à atteindre.
Et c'est vrai.
Oui, voilà. Et du coup, vu que ces gens-là sont finalement comme lui, il va pouvoir jouer un peu avec ça, créer des relations et réussir au combat à mener sa quête à bien.
Alors, restons dans le premier univers, celui qui finalement est le nôtre, en tout cas le nôtre contemporain, ou le nôtre contemporain, on va dire, parce que. Mais le livre s'appelle Sale Temps et c'est pas pour rien, c'est que finalement on se rend compte à quel point la valeur temps, si tu peux utiliser cette expression, est quelque chose de fondamental, d'indispensable, à tel point que finalement ce qu'on va découvrir avec cette possibilité de s'accaparer du temps sans forcément savoir qu'on le prend rien, mais en tout cas d'arriver à étirer les journées. Ça devient presque une activité, une bourse au temps finalement presque.
Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que le temps, c'est quelque chose de qualitatif et pas quantitatif. Puisque dans le premier univers, justement,
des ressources à sa disposition. Donc, quand on a un petit peu de pétrole, et ben, on pompe tout le pétrole. Et quand on a un petit peu de temps, ben, on pompe tout le temps. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, il y a que 2-3 personnages qui savent arrêter le temps. Donc là, c'est vrai que quand on est le seul, on très peu arrêter le temps. Ça, c'est vraiment classe. Parce qu'on peut en profiter, parce que si on est le seul à arrêter le temps, aussi, le premier personnage est un peu ambigu, donc il en profite pour tricher au sport, ce qui est violer un peu les femmes.
C'est un sale type.
Mais d'autres personnages qui ont des motivations un peu meilleures vont en profiter pour travailler plus et aider aussi les autres. Voilà. Donc quand on est seul à arrêter le temps, c'est sûr que c'est bien. Quand on est tous à le faire, la nature humaine collective reprend le dessus, notre côté découvreur, notre côté fonceur, notre côté prédateur.
Ils le savent. Au début, c'est ça qui est
l'opération. Ça ressort. Voilà. C'est exactement la même démarche que quand on, voilà, quand on a une planète, on la pille, on a du temps, on le pille.
Et on se rend compte à un moment qu'il y a des conséquences.
Les conséquences, c'est qu'on pille ce temps, on vole ce temps en fait à un autre univers qui est l'univers parfait dont je parlais tout à l'heure.
Sauf que là, finalement, on rejoint ça, c'est qu'au début, à la limite, à partir du moment où on n'imagine pas qu'il y ait des conséquences, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas agir tel qu'on le fait ? À partir du moment où il y a la prise de conscience, ça n'enraye absolument rien.
Non, alors là, j'ai voulu faire une métaphore un peu indirecte avec ce qui peut se passer en Afrique. C'est quand un génocide est loin, en fait, on s'en fout un petit peu. Et là, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens de notre univers prennent le temps à l'autre univers qui, du coup, se retrouve en génocide, puisque tous les gens dont le temps est volé finissent par mourir. Mais les gens de notre univers, ne le voyant pas directement et ne voyant pas cet univers qui est parallèle, donc loin, en fait, n'en tiennent pas compte et continuent à voler du temps.
Tu connais ce dessin humoristique qui représente une maman et son jeune garçon devant la télévision. Et le garçon, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous dit que ces gens, ils sont morts au Pakistan, en Afrique et tout ça? Et sa mère lui répond, c'est pour savoir si on s'en fout.
C'est un petit peu ça.
C'est pour ça qu'il est très gentil, ça, la ligne.
Ouais,
et l'envoyer.
Après, il y a deux péripéties qu'on ne va pas raconter ici. Les deux univers finissent à la fin par se rencontrer. Donc, il y a une discussion. Mais pendant longtemps, en fait, le premier univers tue le deuxième. On s'en fout, en fait.
Je me suis trompé. Dans Reproduction interdite, il y a. Il y a des thèmes qui sont des thèmes classiques de science-fiction, même si ils évoluent en fonction des périodes, des peurs finalement, des craintes qu'on a. Là, la question, on aurait pu avoir ce roman avec des robots à la place des clones, où on pourrait s'imaginer qu'à un moment, les robots prennent leur essor. Mais il y a aussi la question de l'immortalité derrière.
Oui, il y a le ressort. Évidemment, de cette société, c'est le désir d'immortalité, désir qui n'a jamais été aussi clairement exprimé qu'actuellement. Je ne sais pas si vous voyez dans le courant transhumaniste.
À l'instant,
oui. Donc, je ne veux pas déflorer le sujet, mais jamais autant qu'aujourd'hui, ce désir de se survivre à soi-même. Ou de se prolonger, ou au minimum de s'augmenter, n'a été aussi fort, au point de s'inscrire dans des business plans, dans des plans d'investissement, et d'être, peut-être, on ne sait pas encore, puisqu'on est au démarrage de ce mouvement, vous savez, il faut quand même recadrer les choses. Nous sortons d'une grande bulle financière, la bulle des subprimes, etc., qui a vu s'effondrer notre système financier. Des milliers de milliards de dollars se trouvent sans emploi, au point que, pour avoir le droit de les placer auprès des trésors publics allemands ou français, les investisseurs sont prêts à payer un taux d'intérêt, alors qu'avant, pour prêter de l'argent, normalement, ils encaissent un taux d'intérêt, d'accord ? Là, ils payent des taux d'intérêt à l'État français pour avoir la sécurité de placer leur argent. Donc, il y a des masses énormes d'argent non employés, et on est tous investisseur à l'affût de ce qui va lancer la prochaine bulle, où on va pouvoir enfin utiliser ces énormes fortunes, ces énormes masses de capitaux sans emploi, oisifs, et évidemment, qu'est-ce qui vient, on le sent maintenant, un des candidats, c'est l'intelligence artificielle, le post-humanisme, tout ce qui tourne autour de l'humanité augmentée, de l'humanité améliorée, et même de l'immortalité, puisqu'on a certains technoprophètes qui nous promettent l'immortalité, ou tout comme, quoi, je lis des choses, enfin vous avez tous vu ça aussi, des choses aberrantes du genre, on va vivre 1000 ans dans peu de temps, des gens qui ne savent tout simplement pas calculer qu'est-ce que serait une humanité, combien il y aurait d'humains sur Terre si chaque humain vivait 1000 ans.
Alors vous disiez de milliards. Vous y avez apporté une réponse dans un autre de vos romans.
Oui, dans un autre de mes romans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'arrière-boutique de ces gens-là, il y a du malthusianisme, c'est-à-dire le projet de se séparer d'une partie entière de l'humanité, de la partie qui ne sert à rien. Je cite ça dans un de mes essais totalement inhumaine, qui a suivi le successeur de Pierre, où je parle du même thème, un de ces gros investisseurs high-tech américains qui dit « Tout ce dont nous avons besoin peut être produit, nous les privilégiés du système de 1%, peut être produit par 2% de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait des 98% restants ?»
Charles Strauss, vous avez donné la réponse tout à l'heure. On l'éradique. Charles Strauss, la question du post-humanisme est évidemment très présente dans Accelerando.
It was very present in my work 15 years ago when I was writing Accelerando.
C'était très présent 15 ans plus tôt quand j'étais en train d'écrire Accelerando.
Là encore, on a l'impression, alors, ils vont vers cette solution-là, mais finalement, presque sans s'en rendre compte.
Yes, very much. My father is 92.
Mon père a 92 ans.
He's a cyborg.
He's a cyborg.
Yeah,
c'est un cyborg.
He has a pacemaker.
Oh, il a un pacemaker.
He has artificial valves in his heart.
Il a des valves artificielles dans son cœur.
We are heading this way bit by bit.
On y va morceau par morceau.
Most of us who are aged over 50,
la plupart d'entre nous qui sommes au-delà de 50 ans,
are only alive because of some developments in modern medicine.
Sont seulement vivants grâce à quelques développements de la médecine moderne.
The question isn't whether the human condition has changed fundamentally in the past 200 years.
La condition humaine a changé grandement depuis les dernières 200 années, mais on s'en rend à peine compte.
Jusqu'à quel point, puisque j'ai évoqué un peu cette thématique avec Jean-Michel il y a quelques minutes, jusqu'à quel point finalement ce post-humanisme dont vous parlez, ça n'est pas la victoire de la machine sur l'homme?
Machines are really just extensions of ourselves. They're our tools.
Les machines sont vraiment que des outils, des extensions de nous-mêmes.
Some research in evolutionary biology suggests.
Quelques recherches de recherche de d'évolution biologique.
That the stone hand axe has shaped the human brain almost as much as the human brain shaped the stone hand axe.
La hache de pierre a façonné l'humanité pratiquement autant que l'humanité a façonné la hache de pierre. pas sûr de faire la différence.
Voilà. On est bien dans la thématique, on en croissant avec cette réponse. 5 pour B. Il y a donc toute cette intrigue qui nous mène. Est-ce qu'il y a une suite aux promesses d'atrocité? Parce qu'on arrive à un point final, on ne va pas le révéler ici, mais on a envie de savoir comment ce monde va évoluer, parce que il se passe évidemment un certain nombre d'événements autour du personnage du gladiateur de Yann, et où on se dit est-ce que ces fameuses promesses d'atrocité ne sont pas vraiment tenues, faut bien le dire. Est-ce qu'elles vont déboucher sur une amélioration ou est-ce qu'on peut encore aller dans quelque chose de pire?
Je pense qu'on peut faire pire. Facile. Hein. On l'a déjà fait, c'est jouable. Mais pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue. Éventuellement, peut-être avec de nouveaux personnages, un autre point de vue sur d'autres cités ou des choses comme ça. Mais non, je pense vraiment, oui, ils peuvent empirer les choses, c'est facile.
Parce que c'est en tout cas la question que je me suis posée à la fin, c'est de me dire, voilà, on les laisse à un moment où on est dans une incertitude finalement par rapport à ce qui peut se passer, alors qu'ils sortent quand même d'une période absolument atroce et très, très délicate. Ils sont quand même. On voit les personnages évoluer au fur et à mesure du livre, c'est ça finalement. On a parlé de la prise de conscience de Yann, mais Yann n'a jamais vraiment été dans le système. Par contre, on voit que ceux qui, les archéos en particulier, commencent à se poser des questions justement par rapport aux interactions que Yann provoque entre eux.
Et parce que justement, les archéos ont, pour la plupart d'entre eux, toujours été dans ce système-là, donc ils ne connaissent pas vraiment ce qui se passe dans le monde extérieur. Et le fait de découvrir quelqu'un qui arrive de ce monde extérieur, qui a une culture totalement différente, une vision de l'humanité totalement différente, ça leur ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe. Ils se rendent compte que finalement, les gens de l'extérieur sont comme eux, que les couleurs de peau, alors que c'est quand même un monde extrêmement raciste. Et ils se rendent compte qu'on peut avoir une couleur de peau différente et être humain quand même.
Et je ne crois pas qu'il y ait des races.
Ah, pas du tout. Non, non, allô, au bout, là. Non, non. Et c'est vraiment oui, une espèce de découverte qui fait qu'effectivement, certains archéos, avec le temps, peuvent décider de partir ou découvrir d'autres choses ou éduquer leurs compatriotes, etc. Mais oui, le moment où ça s'arrête, j'avais un peu envie, effectivement, de laisser le lecteur dans ce doute et dans lui laisser en fait imaginer sa propre suite et selon son pessimisme.
Son pessimisme, ça dépend du lecteur.
Décider de bon, ben, ça va s'améliorer ou oh là là, ça va être horrible.
Tire la clé du temps et Dieu. Je sais que la réponse est difficile parce que c'est quand même, malgré tout, c'est quand même aussi une des thématiques du roman.
Moi, j'ai pas vu Dieu vraiment dans.
Alors, pourtant. C'est peut-être pas forcément un Dieu, mais il y a.
Effectivement, il y a un maître du temps.
Je le. Voilà, je le conceptualise peut-être un peu rapidement.